Bienvenue au journal des rencontres dans les ondes, sur les ondes de Fréquence 7 qui a planté sa tente au centre Le Bourneau. Nous sommes ravis aujourd'hui, je suis particulièrement content aujourd'hui de recevoir Igor Minaev pour tous ses films et en particulier L'Inondation qui sera présenté ce soir au public pour fêter en quelque sorte son œuvre. Igor Minaev, bonjour.
Bonjour.
Voilà. Quand je fais une interview comme ça, que j'ai essayé de rentrer dans l'univers de quelqu'un, j'ai l'habitude de procéder par une sorte d'abécédaire. Vous savez, ces livres qui servent à apprendre à lire aux enfants. Et comme ça, on va essayer d'apprendre la langue Minaev. On va essayer de parler Minaev. Alors, à la lettre A, j'ai choisi A comme apercevoir. Il se trouve que Leibniz, le philosophe, nous explique qu'il analyse la sensation et puis nous dit l'univers fait des tas d'impressions sur notre corps et puis ces impressions sur notre corps deviennent des perceptions dans notre âme, mais elles restent inconscientes. Et puis quand la disposition le permet, quand c'est suffisamment intense, tout à coup, elle monte à la conscience et c'est ce qu'il appelle une apperception. On aperçoit.
Oh là là, bon.
Et alors moi, c'est l'effet...
Je vous répondre.
Oui, mais c'est l'effet que m'a fait rez-de-chaussée. Ce film en noir et blanc, on parlera un peu de la technique, me paraît être un film fait pour voir et être vu. Je pense d'ailleurs au rez-de-chaussée lui-même, qui est un appartement qui donne presque directement sur la rue, mais la rue donne pratiquement directement sur l'appartement. Dans vos films, que ce soit La Robe Bleue ou donc justement Rez-de-chaussée, on a souvent cette figure dans L'Inondation aussi, on a cette figure de femme à sa fenêtre. Et pour regarder soit dehors, comme la maman dans La Rose Bleue, soit pour regarder à l'intérieur, comme Isabelle Huppert dans L'Inondation, qui regarde dans la maison à travers la fenêtre. Et alors moi, j'avais jamais vu dans le cinéma un paravent transparent, c'est-à-dire un paravent qui permet d'apercevoir et derrière lequel la maman fait l'hirondelle quand elle a mal au dos. C'est quand même assez extraordinaire. Et je ne sais pas, on a l'impression d'une généralisation de ça avec la cacophonie au Donbass, comme si c'était une volonté de voir ce qui se passe réellement au Donbass, derrière la symphonie du Donbass, le film quasiment de propagande. Mais qu'est-ce qui se passe réellement, vous? Alors, est-ce que c'est la devise d'Igor Minaev? Je veux voir pour faire voir. Enfin, c'est pas quelque chose comme ça.
Bah, écoutez, vous avez déjà tout raconté, donc j'essaie de rajouter quelque chose si je peux. Donc, on commence par Rez-de-chaussée.
Oui.
Rez-de-chaussée, c'est un film de la perestroïka. Et ça, c'est très, très, très important parce qu'il n'était pas du tout possible avant. Et j'ai peur qu'il n'était pas possible après non plus. Donc, voilà. Donc, c'était juste le moment de le faire. Et en fait, au départ, c'était une pièce de théâtre qui était adaptée pour le cinéma. Et après, c'était un peu... On a commencé bien avant la vraie
pièce de
Olga Mikhailova, avec qui je travaille depuis toujours. C'est une amie qui est scénariste et dramaturge. Et donc, voilà. Mais le temps qui est revenu dans notre travail, qui a changé pas mal de choses, voilà, et je trouvais que c'était vraiment le moment pour parler de cette vie privée et de défendre vraiment le droit de la vie privée de chacun, et lié avec la vie de l'État, surtout à ce moment de grand changement radical, le plus important peut-être qui était dans l'histoire de l'Union soviétique. Voilà, c'était l'époque de Gorbatchev, c'était la perestroïka.
Hors antenne, on a parlé de la glasnost, de la transparence. Alors, il y a eu un gain de transparence?
Ah bah oui, complètement. Ah mais oui, complètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en général, tout le monde crache là-dessus en disant « pauvre, c'était n'importe quoi, c'était la pauvreté, comme si avant c'était la richesse ». Donc tout le monde dit que, surtout que les magasins étaient vides. Oui, les magasins étaient vides, mais quand même on avait la liberté. Bon, les gens disent « mais la liberté j'avais avant aussi ».
Ah bon,
d'accord, mais quelle liberté? Bah en fait, est-ce que j'ai besoin de la liberté?
Ah, c'est ça la question. Oui.
Bah bien sûr. C'était quoi? Et la liberté, ça parle de quoi? Voilà, c'était ça. Et donc pour moi, c'était, bon, je sais pas, je trouve que c'est un thème récurrent, si j'ose dire, si j'ai la prétention de le dire, de tous mes films-là, c'est parler de la liberté avant tout. Donc voilà, mais Rez-de-chaussée, c'était justement ça.
Oui. Et avec un personnage qui se sert de, justement de la vision, on en parlait aussi en antenne, il se sert de la vision pour lire les journaux. Mais en lire les journaux à plus soif, il découpe des articles, il veut voir, mais il veut lire aussi.
Ah oui, non, mais ça c'est vrai qu'à cette époque-là, il y avait chaque jour, il y avait des publications qui démontraient que tout ce qui était avant, c'était mensonger. Voilà, et ça, c'était tout à coup, l'histoire était revue autrement. Donc, la stupéfaction totale, bah, en même temps, c'est pour une fois, on dit des choses, voilà, et qu'il y avait pas mal de gens, les gens, ils faisaient des queues pour acheter des journaux. On n'a jamais vu oui. les choses, mais vraiment partout, c'était hallucinant. Donc il fallait arriver le matin pour acheter le journal, parce que sinon après il n'y avait plus rien. Donc et après les gens découpaient des articles, comme s'il y avait cette peur qui cachait quelque part que ça va disparaître sans laisser les traces. Voilà, donc ça c'était incroyable. Donc je voulais absolument, c'est un personnage qu'on a rajouté dans le film, parce que dans la pièce qui était écrite avant, il n'y avait pas
ce personnage, évidemment. Oui. Voilà. Il est étonnant ce personnage, on le retrouve un petit peu dans l'Horizon Argenté, c'est ça
L'Horizon Argenté, oui.
Où il chante, où il danse, où il boit déjà, un petit peu.
Oui, c'était quelqu'un formidable qui s'appelle Nicolas Tokar, voilà, et qui n'était pas comédien.
Ah oui.
Pas du tout, non, il est comédien non professionnel, comme on dit. Voilà, je l'avais trouvé à Kharkov, on dit aujourd'hui Kharkiv. Et donc,
comment il faut dire ?
Bah écoutez, moi, on dit Kharkiv parce que c'est un Ukrainien aujourd'hui, mais on parle comme ça. Moi, je pense que j'ai ma petite privilège. De dire Kharkov parce que je suis né dans cette ville, c'est marqué dans mon acte de naissance, oui, Kharkov, oui. Donc excusez-moi, je dis comme je veux.
Mais bien sûr,
voilà, c'est tout. Donc, ça change pas grand-chose.
Je me suis posé la question pour, oui, oui. pour Kiev et Kiev. Oui, j'hésitais, je me dis bon.
Ça aussi, c'est une discussion à l'infini parce que, quand même, avant, on disait à la façon russe, évidemment. Donc, c'était Kiev. Mmh. Donc, aujourd'hui, on dit Kiev à la façon ukrainienne. Voilà, donc. Mais bon, la ville reste la même. Donc.
Bon, vos bases, elles sont B comme base. Je continue mon petit abécédaire. B comme base, je me suis pas foulé, je reconnais.
On va aller jusqu'à Z.
Non, je crois pas. Non,
j'espère.
Moi, je pouvais. Vous avez fait vos études à l'Université nationale de théâtre, de cinéma et de télévision Karpenko-Kari.
Oui.
À Kiev.
Oui. C'est une école de cinéma. C'est l'école de théâtre et de cinéma.
Une des trois grandes écoles, je crois.
Je pense en Ukraine, c'était la plus grande. Voilà. Mais en fait, à cette époque-là, quand je fais mes études, il y a, en l'Union soviétique quand même, donc il y a trois écoles de cinéma. Mmh. Donc il y a à Moscou, plus grande c'est Vgik, et la deuxième c'est à Kiev, et la troisième c'est en Géorgie, à Tbilissi. C'est tout, c'est bon, c'est pour un pays si immense, etc. C'est pas beaucoup.
Ouais.
Mais bon, c'est beaucoup pour avoir des chômeurs après, ça va, mais bon, trois, ça va. bon, sinon c'est pas beaucoup, ça c'est vrai, trois écoles.
Voilà. Mais alors donc, dans cette école, cette université, théâtre de cinéma et de télévision, théâtre, hein, et donc votre film d'étude, c'est La Mouette, adapté de La Mouette de Tchekhov.
Oh, oui, mais joué par les enfants.
Oui.
Avec leur prof qui essaie de monter cette pièce avec les enfants qui ne comprennent rien du tout, ce qui est normal, mais qui tombent dans cette ambiance de Tchekhov et surtout dans la complexité des sentiments adultes qu'ils ne comprennent pas, mais ils vivent exactement la même chose que des adultes dans la pièce de Tchekhov.
Oui.
Voilà, mais bon, c'est comme ça qu'on grandit peut-être, je ne sais pas.
Oui, dans la pièce de Tchekhov, il y a une femme amoureuse d'un homme qui ne lui rend pas, et un homme est amoureux de cette femme qui ne lui rend pas non plus. Voilà. Et le meurtre de la mouette est assez symbolique de cette douleur, de cette souffrance qui traverse les personnages. Dans La Mouette, votre film, c'est la professeure, c'est Marina, non ?
Mais dans le film, La Robe Bleue, oui, elle s'appelle Marina,
Marina.
oui.
Et dans La Mouette, parce qu'il y a un passage qui m'a bluffé, c'est le moment où la professeure, donc, hein, on va dire comme ça, montre au jeune garçon comment il doit jouer.
Oui, ben là, elle joue le rôle masculin.
Oui,
Oui, voilà,
elle est
oui,
extraordinaire.
oui.
Elle est extraordinaire. Alors on la voit.
C'est une autre comédienne avec
Oui.
qui je travaillais à l'époque de mes courts-métrages. Voilà, plus jamais. Mais oui,
Elle a continué le cinéma?
Non, elle était après. Bon, en fait, elle était plutôt critique de cinéma. J'ai beaucoup aimé à cette époque-là de travailler avec des non-professionnels.
Oui,
Après,
d'accord,
je préférais professionnels.
oui. Oui, parce qu'elle est quand même tout à fait étonnante
Oui.
dans ce. Enfin, c'est une chose qui me fascine au cinéma, les acteurs qui jouent les acteurs, vous voyez,
Ouais.
jouer le jeu. Et là, il y a quand même un élément incroyable. On a parlé d'Olga Mikhaïlova, qui est donc scénariste du rez-de-chaussée, de Loin de Sunset Boulevard, qui est aussi l'éclairière de la lune, La Robe Bleue. Elle est tout le temps avec vous.
Oui,
Et c'est.
tout à fait.
Et donc, elle est aussi avec vous pour Madame Tchaïkovski.
Tout à fait, ouais.
Et alors, je me posais la question, vu la présence très importante de la scène dans votre œuvre, avec donc le spectacle L'histoire du soldat de Ramus,
Oui.
et puis Les Nuits Florentines.
Oui, vous avez tout vu,
Mais non,
quoi.
mais c'est pas ça, mais j'ai découvert avec une espèce de gourmandise une poétesse que je connaissais pas du tout,
C'est
Tsvetaeva.
Eva.
Incroyable, un
Bah,
destin incroyable.
mais c'est un vrai génie, Marina
Oui.
Tsvetaeva, oui, bien sûr. Les Nuits Florentines de Tsvetaeva, c'est pas très connu. Bah, c'est un tout petit livre, si vous voulez, et en fait, basé sur une correspondance. En fait, le titre, Les Nuits Florentines, c'est un titre d'un petit, petit livre de Heine. Voilà. Et donc, en fait, quand elle était Marina Tsvetaeva déjà, qui était à Paris, un éditeur russe à Berlin, là où il y avait toute l'immigration à cette époque-là, et la demande, parce qu'elle parlait allemand et français à la façon impeccable, absolument, et tout, donc la demande de traduire Heine. Pour sortir le bouquin en russe, Les Nuits Florentines, ça s'appelle. Donc, Marina Tsvetaeva, elle commence à traduire. À mon avis, elle travaillait pratiquement pas du tout parce qu'elle est tombée amoureuse de cet éditeur. Ça, c'était beaucoup plus important que la traduction.
Sur de
Oui, voilà. Donc, du coup, elle commence à lui écrire des lettres.
Ah,
Il
j'ai vu ça,
répond, oui, il répond pas vraiment. Donc, elle essaie de se cacher parce qu'elle avait peur d'elle. Voilà, elle était
oui.
assez insistante et tout, mais elle était exubérante, elle était géniale, mais elle était quand même pas facile que ça. Donc, voilà. Et un jour, ça dure un moment, et un jour, elle lui dit, écoutez, bon, Heine, j'ai pas traduit, mais les lettres, j'aimerais bien de les recevoir quand même. Renvoyez-moi mes lettres.
Ah oui.
Donc, il lui a renvoyé des lettres. Sauf une, je crois. Et donc le titre, et après à Paris, quand elle retrouve dans sa valise d'émigrés, elle retrouve ces lettres-là, elle se dit, ça fait déjà une œuvre d'art. Et
Oui,
donc elle a fait ça, et elle dit, je garde le titre de Heine, parce que j'ai jamais traduit, mais ça,
d'accord,
c'était un prétexte
excellent.
pour
Pour publier,
vivre cette
pour
histoire
vivre
d'amour.
cette histoire
Voilà,
d'amour,
donc
qui
c'est
ressemble à une histoire
incroyable.
de qui pourrait être une histoire d'un de vos films, hein, finalement.
Oui, non, mais c'est formidable,
Mais
c'est.
pourquoi elle est rentrée en URSS pour finir aussi dramatiquement?
Bah, mais ça, c'est très, très compliqué, cette
Ouais, on
histoire,
va
parce
pas
qu'en
raconter.
fait, son mari, il était. Elle avait perdu de vue pendant plusieurs années, il est revenu, voilà, et après, il commençait à travailler avec le KGB, voilà, comme ça, il recevait de l'argent, et après, toute l'immigration lui tournait le dos. Donc, son mari et sa fille sont repartis à Moscou,
D'accord.
elle, on ne sait pas, est-ce qu'elle était au courant ou pas, bon, c'est difficile à se dire, et donc, elle est repartie. Quand elle est repartie à Moscou, elle ne savait pas du tout que son mari, il était déjà fusillé, et que sa fille, elle est restée, je crois, 25 ans au goulag, voilà. Et elle est restée avec son
Son
fils,
fils.
avec son fils, et c'était absolument tragique parce qu'elle était évacuée de Moscou et
Elle n'avait pas de travail.
elle n'avait pas de travail. Elle était toujours prête de faire n'importe quel travail pour pouvoir gagner un peu d'argent et tout, contrairement aux autres, et se portait pas d'un côté comme un poète et qui était un poète absolument génial. Mmh. Et de l'autre côté, elle a dit qu'ici, il faut aller laver le plancher, je fais ça. Mais c'est, voilà,
parce comme Isabelle Huppert, quoi, dans le film.
Oui, oui, un peu ça. Voilà. Et donc, ouais. Et après, bon, on sait que ça s'est terminé tragiquement et s'est pendu. Voilà. Et son fils, il est mort à la guerre.
À la guerre, ouais. Après, oui. Est-ce que ce rapport étroit que vous entretenez avec le théâtre a une influence sur votre façon de mettre en scène et puis d'écrire les dialogues est-ce que c'est théâtral? Est-ce que votre cinéma, il est théâtral, du coup, voilà, pour aller vite? Ou est-ce que vous le sentez comme théâtral?
Non, moi, je ne sens pas comme théâtral, mais ça n'empêche que les autres peuvent sentir comme théâtral. Bon, je ne sais pas. Donc,
pas spécialement, en fait, non.
Non, mais c'est... Mais en même temps, vous savez que j'aime beaucoup le théâtre, ça, c'est vrai. Voilà. Et la meilleure prof que j'ai eue dans ma vie, c'était quand j'étais adolescent. Elle était metteur en scène de théâtre.
Et vous jouiez Tchekhov, non?
Non, on n'a pas joué Tchekhov avec elle, mais je pense que pratiquement tout ce que j'ai appris à l'âge vraiment de 14 ans, etc., j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses, c'est grâce à cette dame qui était un prof. C'est une chance. Je considère toujours que c'était vraiment une chance de ma vie.
Mais un peu comme dans La Mouette, en fait, je veux dire.
Un peu, oui. C'était justement comme je faisais, quand j'ai écrit le scénario de ce film de fin d'études, j'ai pensé à elle, bien sûr.
Alors, à côté du théâtre, moi, j'ai trouvé qu'était très présente dans vos films, évidemment, la musique. Alors, on disait qu'en Ukraine, il y a une grande importance accordée à la chanson, à la musique et aux danses populaires.
Ah oui, c'est énorme, parce qu'en Ukraine, quand même, la culture, disons, de base, c'est très, très, très folklorique. Ça, ça reste jusqu'à maintenant, voilà.
Et avec aussi la musique russe, c'est-à-dire bon, Tchaïkovski.
Bah oui, bien sûr, j'adore Tchaïkovski.
Ouais. Et alors, celui qui fait beaucoup de vos musiques, apparemment, je vous ai entendu d'ailleurs à la radio. Dans un podcast, vous étiez dans les traverses du temps sur France Musique.
Ah, c'était Vadim Cher.
Oui.
Ah bah oui, bien sûr.
Voilà, je voulais vous parler de Vadim Cher.
Ah oui, Vadim Cher, c'est un vrai.
Bah, vous pouvez
c'est
nous en parler.
C'est un compositeur que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a fait tous mes derniers films, je fais avec lui. Et c'était assez marrant notre rencontre avec Vadim, parce qu'avant j'ai travaillé avec un autre compositeur, et donc c'était la préparation pour Louant de 107 Boulevard. C'est un film où il y a beaucoup de musique.
Bien sûr, c'est une comédie musicale.
Voilà. Et du coup, le compositeur avec qui j'ai travaillé avant, ça marchait pas. Et on était déjà en préparation, donc pour commencer le tournage, il fallait déjà enregistrer la musique, parce qu'on a tout tourné en playback, évidemment.
Oui, d'accord.
Donc sinon, on ne peut pas faire. Et donc, je suis resté pour la comédie musicale, sans musique, sans compositeur. Et là, on a commencé à chercher, et je peux vous dire que tout le monde a refusé en disant « j'ai pas le temps pour écrire ça ». Il fallait écrire, je sais pas, 3 tonnes de musique, et on n'avait pas le temps.
Oui.
Et voilà, c'est comme ça que je connaissais un peu Vadim.
Vous êtes rencontrés à Paris, du coup?
Oui, on s'est rencontrés il y a longtemps, mais à cette époque-là, on n'était pas vraiment amis, on était un peu des copains, comme ça. Et donc... j'ai appelé Vadim parce que je suis revenu à Paris dans le désespoir le plus total et global qui existe. Parce que je me suis dit,
une comédie musicale sans musique, c'est difficile.
Oui. Je me suis dit, c'est perdu d'avance, de toute façon, c'est clair. Ouais. Donc, j'ai appelé Vadim qui est venu, je lui ai expliqué, je lui ai dit, on essaie de faire quelque chose. Et on a fait des essais. Et en une journée, Vadim est revenu chez moi 3 fois ou 4 fois. Il rentrait chez lui. Chaque fois, il écrivait. On a écouté. Je dis non, c'est à peu près quelque chose, mais pas tout à fait. Donc, il dit OK. Donc, il a retravaillé. Et on s'est parti. Et il faut dire qu'il y a énormément de musique dans ce film.
Oui, énormément.
Énormément. C'est plusieurs comédies musicales et tout.
C'est ça.
Et je ne voulais pas utiliser des vraies comédies musicales des années 30. Je voulais qu'on les compose vraiment.
À partir de...
Et donc, Vadim, elle a écrit toutes ses comédies musicales. et c'était son premier film en tant que compositeur.
C'est incroyable.
Oui, c'est incroyable. Ouais, ouais. Mais je ne sais pas, je sentis que c'est quelqu'un vraiment formidable dans tous les sens.
Puis alors du coup, ouais, évidemment, les personnages, enfin, le personnage masculin du réalisateur, le personnage féminin, c'est Lydia, de l'actrice super célèbre, elle surtout, elle colle merveilleusement bien à la musique pour les scènes de chant, de revue, enfin, etc. Ça marche du feu de Dieu, quoi.
Ah oui, oui, non, ça, j'espère que ça marche très très bien. Ah ouais. Donc, non, c'était assez incroyable parce qu'avec nous, on avait quand même une chorégraphe formidable, Elena Bogdanovic. Et donc, c'était même curieux parce que moi, j'ai prévu, disons, 2 mois de répétition parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses quand même. Et donc, finalement, pour toutes les comédies musicales, on avait une semaine.
Mon Dieu.
Oui.
Tout ça en une semaine.
En une semaine. C'était fait en une semaine, ces comédies musicales.
Pour que les auditeurs le sachent, il faut savoir qu'il y a énormément de scènes, grand spectacle, hein, on va dire, effectivement. Et c'est impressionnant, oui. Rien que les costumes.
Oui, tout ça, c'était vraiment pas le film en entier, tout ce qui concerne les comédies musicales, etc. Ouais. Donc les répétitions, tout ça, on a eu une semaine. Donc et c'était parfois même comique. Aujourd'hui, je peux le dire que c'était comique. À l'époque, c'était pas comique du tout, du tout. Donc, je dis que j'aimerais bien quand même que les danseurs chantent. Et chorégraphe, elle m'a dit, Igor, de toute façon, soit ils chantent, soit ils dansent, mais pas les deux. Je dis, mais on peut toujours demander. Donc, je dis, est-ce que vous pouvez chanter en même temps que vous dansez? Ils disent, oui, bien sûr, on peut. Et chanter et danser. Mais réglé en une seconde, comme ça. Et on tournait tout de suite.
Oui, il y a un petit peu de talent, je pense, derrière. Il y a un petit peu de travail, mais avant, quoi. Des chanteurs, des danseurs.
Je ne sais pas. En tout cas, c'était, même si le tournage était très compliqué, vraiment, mais il était formidable.
Et dans ce film, d'ailleurs, il y a un personnage de la vision qui, pour moi, est presque la figure de la vision. C'est le chef opérateur, Heinrich Berg, qui se fait... qui disparaît. Hein. Il se fait prendre par les autorités, on suppose, et hop, il disparaît, il est remplacé par un homme du régime, enfin, on peut dire ça comme ça.
Tout à fait.
Et ce chef opérateur est un personnage vraiment extraordinaire. C'est l'œil de...
C'est un personnage formidable et c'est un comédien absolument exceptionnel qui jouait ce rôle-là. C'était un comédien qui s'appelle Lembit Ulfsak, mais évidemment, ça ne dit rien aux spectateurs, aux éditeurs, mais c'était peut-être le plus grand, la plus grande star de théâtre d'Estonie.
Ah bon, ouais.
Voilà.
Mais ça,
elle est absolument incroyable. C'était un comédien, mais magnifique.
Il apparaît souvent à l'écran parce qu'il s'obstine à fumer dans les studios. C'est interdit. Et il y a un petit agent là, qui lui tombe dessus régulièrement pour lui demander 25 roubles. Mmh. Et ce petit jeu là, qui revient, cette petite virgule régulièrement, elle est tordante. À la fin, il dit, écoute, je te donne 100 roubles et tu me laisses tranquille 4 jours. C'est extra.
Oui, oui. Non, mais en plus, dans ce film-là, ce comédien-là, il était d'origine estonienne. Donc, il parlait russe avec un très, très fort accent de pays baltes. Donc, les autres, ce sont des Russes, des Ukrainiens, et tout comme c'était à l'Union soviétique dans ces années-là. Donc, chacun parlait avec son accent de son pays, disons. Voilà. Mais en fait, tous les films soviétiques, ils étaient post-synchronisés. Donc, quand les comédiens, avec un accent, disons, régional, ils tournaient dans les films, donc ils parlaient russe tous, ils étaient doublés par des comédiens russes parce qu'il fallait garder le russe impeccable. Et donc là, je me suis dit, c'est plus cette époque-là, je veux que tout le monde parle sa langue. Donc, c'était pas facile, parce qu'il fallait, quand on a fait la pause synchro, il fallait faire revenir tous les comédiens de tous les pays, etc., pour qu'ils parlent tous, vraiment pour qu'ils terminent leur rôle. Il y avait énormément de comédiens ukrainiens que je fais venir pour la pause synchro. Voilà, et c'était assez touchant parce que ils sont revenus juste après les révolutions orange.
Oui.
Donc ils sont venus tous avec des écharpes.
C'est ça.
Oui, à Kiev.
À Kiev.
Oui. Donc ils sont venus de Kiev avec leur écharpe orange. Après cette révolution orange qui était magnifique, etc., qui était perdue après, mais bon, à ce moment-là, c'était l'enthousiasme énorme. Voilà, et donc tout le monde parlait russe avec son accent ukrainien, et c'était authentique, c'était bien, ils n'ont jamais été invités pour terminer leur rôle avant. Donc
c'était une vraie fédération pour le coup.
Bah, je fais une vraie fédération dans le cinéma, en tout cas.
Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Moi, je continue mon petit abécédaire, ça vous ennuie pas ?
Non, pas du tout.
Bon, bah alors, on y va. C'est comme carré, à cause du format.
Oui, c'est joli comme format.
Ah, mais c'est très beau. Et justement, pour les auditeurs, rapidement, donc le format carré, c'est 1.33.
Hein, ouais. Fait plus.
Non, c'est 1.33 de largeur pour 1 de hauteur, au contraire de Cinémascope, qui est de 2,35 m, je crois, enfin 2,35 sur 1, quelque chose comme ça, beaucoup moins large, quoi, voilà.
Non, mais quand même, j'ai préféré après en 66, et c'est très bien. Bon, oui. C'est assez universel.
L'inondation, c'est en 66, peut-être.
Je crois, oui. Oui, ça doit être en 66. Oui. Ouais. Mais après aussi, je crois. Sauf que, bon, dans la cacophonie du Donbass, il y a plusieurs films d'archives, les formats différents, évidemment. Ouais. Mais sinon, c'est en 66, c'est bien.
Oui, c'est
bien. C'est assez harmonieux, je trouve.
Oui. Oui, c'est vrai. Oui. On est, oui. Et donc, le format absolument carré, c'est très, très peu utilisé. Bon, alors, il y a l'à peu près carré 1,33 et puis donc 1,66 dont vous venez de parler. Ces formats la plus réduits dans la largeur. Alors, ça donne un petit côté old school, enfin, nostalgique. C'est probablement pas le but principal.
Non, je sais pas. C'était il y a longtemps. Je ne me souviens pas pourquoi. Bah, je sais pas du tout. Mais après, je sais que le choix du format, c'était toujours en 66. Bah, le carré, c'était l'école de cinéma.
L'école de cinéma, oui, c'est ça. Oui, c'est un format très ancien. C'est le format du muet, un 33. C'était Thomas Edison. Même les Frères Lumière, ils avaient des pellicules de 24x16. Mais il y a peut-être une autre raison, bah vous me dites peut-être que je ne suis pas du tout expert, mais vraiment pas, en termes d'image. Mais est-ce que ce n'est pas un format qui permet de concentrer l'image et d'obliger... je suis toujours dans mon aperception du début, mais en fait... qui oblige un peu le spectateur à regarder plus précisément les visages en particulier. C'est-à-dire qu'on part moins sur les côtés, quoi.
Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas, parce qu'en fait, ça dépend de votre mise en scène. Ouais. Voilà, comment vous faites, de l'éclairage et tout et tout. Donc, on peut être concentré, même quand on est en cinémascope. C'est possible. Ça dépend vraiment
et
comment...
Et ne pas être concentré avec vous,
tout
rien
à fait.
Sur l'image.
Oui, tout à fait. Non, mais ça, c'est vraiment la question de mise en scène et de cadrage. Oui, c'est avant tout ça.
Ouais. En tous les cas, ça dépayse complètement, parce qu'on a pas tellement l'habitude. Il y a eu quelques essais ces derniers temps, comme Grand Budapest Hotel, par exemple, qui utilise ce format, mais c'est vrai qu'on n'est pas très habitué et que du coup, ça nous signale qu'on est au cinéma, comme d'une certaine manière.
Oui, tout à fait. Un peu, quelque part, je ne sais pas, un peu dans le passé, comme ça, nous rappelle quelque chose, on ne sait pas quoi, mais c'est un peu nostalgique comme forme.
Oui, ça vient nous fouiller, nous, en fait, d'une certaine manière. Alors, D comme défilé, parce que j'en parlais tout à l'heure, il y a beaucoup de défilés dans votre œuvre, je trouve. Il y en a dans le rez-de-chaussée, il y a des revues aussi, c'est une forme de mouvement collectif comme ça, etc. Donc dans loin de Sunset Boulevard, bien sûr, il y a un très beau défilé dans l'inondation sur le pont là. Défilé qui passe comme ça, avec des chants. On entend la Marseillaise d'ailleurs.
Oui, parce que c'était très populaire, Marseillaise, l'Union soviétique. Mais bien sûr, c'était considéré comme une chanson révolutionnaire.
C'est tout. Bon ?
Oui. Je sais qu'en France, tout le monde dit « Ah ben, et pourquoi la Marseillaise ?»
Parce que
c'était la Marseillaise et l'Internationale, c'était presque
la
égal.
Même chose.
Oui, absolument.
Ah, c'est fou.
Alors, il n'y avait pas en clin d'œil pour quelque chose.
Pour la France ou la Révolution.
C'est comme ça. En réalité,
D'ailleurs, votre cinéma, je crois que ça revient à mon petit dada, là, de voir, de faire voir. C'est vrai que votre cinéma, il sert beaucoup à nous faire voir des choses qu'on n'a pas forcément l'idée de voir. Enfin, c'est probable. Enfin, je ne sais pas. En tous les cas, c'est défilé. Moi, il y a le défilé dans votre œuvre qui m'a le plus fasciné. C'est un défilé immobile. c'est dans rez-de-chaussée. Et ce sont les... Il y a un défilé mobile aussi dans rez-de-chaussée. Mais il y a un autre défilé, c'est pour la fête du 8 mars. Je crois que c'est la fête des mères, hein, c'est ça?
Oui, dans rez-de-chaussée, oui.
Ouais. Et il y a des portraits de femmes qui sont glorifiés en quelque sorte, de part et d'autre de la rue, comme ça, et alignés comme des matrioshkas un peu. Je ne sais pas.
Oui, mais ça, c'est... Bah, c'est, ça se faisait comme ça.
Ça se faisait réellement.
Oui, bien sûr. Bon, j'ai un peu modifié, disons, le code, mais sinon, ça se faisait, oui. C'était surtout des stakhanovistes,
oui,
qui étaient leurs portraits, qui étaient alignés comme ça partout et tout. Mais là, je me suis dit, ça, c'est la fête des femmes, donc on va mettre des femmes quand même.
Mmh.
Bon, voilà. Donc, mmh. Et ça, c'est un peu marrant pour moi, parce que je ne connais pas tout le monde qui sont sur ces photos,
bien
etc.
Sûr, j'imagine.
Mais il y avait des photos que j'ai demandé de faire avec des gens avec qui j'ai travaillé. Donc, on a mis leurs photos. Donc, c'est amusant, mais bon, c'est
oui,
vraiment
oui, ça,
c'est personnel. Comme
oui,
ça,
private hein. Joke, en quelque oui, sorte. Ouais, c'est ça, ouais. Oui. Oui, mais en tous les cas, il est... Je ne sais pas exactement quel sentiment il provoque, ce défilé. En tous les cas, moi, l'effet que m'ont fait ces défilés et ces revues, c'est comme si c'était des lieux dans lesquels les individus sont aliénés, en quelque sorte. Ils s'oublient eux-mêmes du fait qu'ils participent à ce groupe. Ils marchent au pas, ils sont habillés de la même manière, ou du moins, il y a un code, il y a un dress code du défilé, forcément.
Non, mais en même temps, quand même, c'est un... Bon, disons, le grand défilé de... rez-de-chaussée, c'est pour la fête du 1er mai. Ouais. Donc voilà, c'est là où ils défilent et avec leur slogan, etc. Et là, c'était vraiment, vraiment très important parce que je voulais mettre vraiment des slogans importants. Pas n'importe quoi, genre « Vive le 1er mai !» Bon, d'accord, mais ça, on était quand même à l'époque où on pouvait dire beaucoup plus que ça.
Ça oui,
et donc
oui.
C'est pour ça qu'ils portent des choses qui rendent compte sur... sur la liberté, pour la justice, etc. Donc ce qu'ils portent, c'est vraiment quelque chose qui...
C'est vraiment une cause, quoi.
Ah oui, oui. Oui. C'est vraiment comme si on défend une cause de la liberté, comme ça.
D'accord.
Ça, c'était très, très important. J'ai vérifié moi-même. Chaque chose, je dis non.
Ça et ça.
Ouais.
Donc j'ai mal interprété.
Non, je suis
très content de. J'ai un peu mal interprété parce que je croyais que ce défilé il était conformiste, alors qu'en fait
non.
Voilà.
Non.
Je suis très content que vous rectifiez mon regard sur ce coup-là. Nous n'avons plus beaucoup de temps. J'aurais bien aimé parler éventuellement de eux comme expressionnisme, mais ça va faire vraiment court. Je me demande simplement parce que quand j'ai vu rez-de-chaussée, j'ai pensé au cinéma expressionniste, quoi. Enfin, quelque chose comme ça.
Parce que c'est noir et blanc, parce que c'est la lumière et tout, c'est très contrasté, etc. Parce qu'il y a le mouvement de lumière et tout. Oui, on peut dire.
On peut le dire.
Oui, on peut le dire.
Non, mais alors, je vous en ai parlé avant de rentrer dans notre studio camping. Je suis tombé sur une anthologie de la poésie ukrainienne. Donc ça m'a permis de découvrir la poésie ukrainienne. J'étais frappé de la présence de la vie de la poésie en Ukraine, et en particulier du fait que tous les grands courants, le futurisme par exemple, le modernisme, etc., sont très représentés en Ukraine. Vous appartenez-vous à un mouvement comme ça, artistique? Non, pas spécialement. C'est vous.
Non, pas du tout, même parce que il n'y avait pas de mouvement. Il n'y avait plus de mouvement, c'est ça le problème. Voilà, donc je sais pas, l'époque des grands mouvements quand même s'est arrêtée je crois dans les années 60 là-bas. C'était dernier mouvement, comme c'était surtout dans la poésie et tout. Mais en fait, c'est compliqué parce que tout ce qui était dans les années 20,
oui,
cet élan incroyable,
oui,
tout ça s'était arrêté. Et c'est, en Ukraine, c'était fait même avant que même en Russie, parce que les gens étaient physiquement arrêtés, les gens étaient envoyés au goulag, les gens étaient vraiment exterminés, et les poètes avant-gardistes ukrainiens sont disparus, et après c'était pendant des décennies, où on ne pouvait pas trouver des traces.
Complètement.
Ouais, ouais. Ouais, voilà. Donc on en parle beaucoup aujourd'hui, mais pendant des années c'était le silence radio.
Ben malheureusement, le couvercle s'est un petit peu refermé sur l'Ukraine à cause de l'autre. J'ai bien envie de dédier cet entretien aux Ukrainiens. Et on va se remettre en mouvement. On va se remettre en mouvement. On se retrouve ce soir pour une autre interview. Ça sera une interview sur le focus des rencontres sur sexualité, genre, sexualité, jeunesse. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Igor Minaev, au revoir et merci d'être passé.
Merci à vous.
À bientôt. Au revoir.